amis, bonjour.
Le Centre chrétien évangélique d'Andrézieux a le plaisir de vous faire écouter des conférences publiques de différents pasteurs.
Ces messages ont été en bénédiction pour un grand nombre d'auditeurs et nous espérons qu'il en soit de même pour vous.
Vous pouvez venir écouter ces prédications en direct tous les dimanches à 10h et 16h30, ainsi que les mardis à 20h à l'adresse suivante.
Centre chrétien évangélique d'Andrézieux, 4 bis boulevard Jean Jaurès, 42160, Andrézieux-Boutéon.
Si vous désirez écouter d'autres conférences, vous pouvez les commander soit au comptoir de notre librairie, soit par téléphone au 04 77 36 67 45, en laissant sur notre messagerie vocale vos coordonnées et les numéros des conférences désirées.
Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente écoute.
Intime avec le Seigneur. Nous avons vu que cette chambre haute avait été faite de murs, et les murs parlaient de la sanctification, la protection du chrétien, ce qui permet au chrétien d'être protégé, gardé, afin que l'ennemi qui viendra de toute manière nous attaquer, eh bien puisse repartir vaincu. Parce que justement, cette sanctification va nous protéger. Équilibre également, même dans notre consécration pour le Seigneur. Ni trop peu, ni trop davantage. Dans le domaine spirituel, vous arrivez à créer cette chambre avec deux significations. Ça va arriver. La première, l'activité d'Élysée. On va parler de son travail, de son œuvre, de son action, rapidement. Deuxièmement, sa représentation spirituelle. Qu'est-ce que cette table a comme représentation pour nous aujourd'hui? Alors premièrement, Élisée, partie A, certainement, eh bien, était un homme d'action, un homme en activité. La Bible nous dit ici dans ce texte, chaque fois qu'il passera par là, et Dieu sait si apparemment Élisée est passé souvent, il n'aurait certainement pas fait une maison, bord de la rivière, pardon, en train simplement de méditer et en attendant que les choses se passent. Parfois, on trouve des chrétiens qui sont toujours en train de méditer. À l'école biblique, un jour, un frère m'a dit que c'était formidable l'expérience qu'il venait de vivre parce qu'il était avec un frère dans la même chambre à l'école biblique et qui était vraiment très très spirituel. Ils étaient tout le temps là en faisant Alléluia, gloire à Dieu. Il y avait toujours des mots merveilleux, des mots d'encouragement, des versets qui venaient par cœur, etc. C'est vraiment un moment formidable de parler, disait-il, avec ce frère, ce collègue. Et puis, ils étaient donc à l'école biblique, il n'y a pas de la vaisselle là-bas, donc ils devaient faire la vaisselle, faire la plonge, et puis je sais pas, ils me racontaient qu'à l'école, un quart d'heure se passe, ils commencent à avoir, on va dire, une sainte colère qui commence à monter. Ils se disent, c'est pas possible, il est là pour bosser avec moi, je me retrouve tout seul dans ces casseroles pleines de graisse, la sauce tomate de partout, c'est dégoûtant. Et au bout d'un moment, il en avait tellement assez, il a posé sa casserole, il s'est suyé les mains, il a commencé à le chercher. Et puis il est arrivé jusque dans la chambre. Et il a ouvert la porte, et là dans la chambre, il a vu son collègue allongé sur le lit, en train de faire « Oh Seigneur, tu es merveilleux, je te bénis, Alléluia, etc. » Et il l'a attrapé par le... Et il lui dit « Alléluia, viens avec moi. » Et je vais te faire faire Alléluia avec moi à la plonge. Et c'est vrai que ça l'avait marqué.
Pour vous citer des versets bibliques, pour vous donner des conseils, pour vous dire, oh mais c'est comme ça que tu devrais faire. Oh non, c'est plutôt comme ça que tu devrais faire. Oh tu sais, le Seigneur me dit qu'il va se passer ceci et cela, et puis voilà ce que tu devrais faire dans ta vie, etc. Seulement au moment où on a besoin justement d'hommes et de femmes pour accomplir et pour faire, eux, ils sont jamais là. Ils sont toujours là pour donner les bons conseils, pour faire les spirituels. Quand il faut retrousser les manches et qu'il faut persévérer, parce que c'est pas toujours facile, et puis travailler avec des frères et des sœurs, c'est pas... Et
c'est une démonstration de persévérance, de courage, et de dire, ben, à un moment donné, si, il faut y aller. Et là, ceux-là, vous les voyez plus. Le jour où vous en avez besoin, ils sont pas là, ou... Dommage et désolé. Élisée, c'était un travailleur, c'était un bosseur, c'était quelqu'un qui savait qu'il avait des responsabilités. Il avait des responsabilités par rapport au peuple de Dieu, il avait des responsabilités par rapport au roi, il avait à Dieu lui-même. Et il devait prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Et nous sommes, nous aussi, amenés à prendre nos responsabilités. Nous sommes appelés aussi à travailler. La Bible nous dit d'ailleurs. Et la Bible nous enseigne aussi à travailler. D'ailleurs, elle va même dire dans 2 Thessaloniciens, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'est-ce qu'il dit? Elle est pratique, la Bible, hein. Moi, j'aime bien la parole de Dieu. C'est très pratique. Il y en a, ils pensent que c'est très philosophique, théologique, c'est des choses qui... Non, c'est très simple. Moi, je ne sais pas trop comment ne pas interpréter tel qu'il est écrit ce verset-là. Tu veux pas travailler? Ben, tu manges pas non plus. Je crois que c'est très simple. Et il y a des choses qui sont concrètes. Alors, il ne faut pas non plus vous culpabiliser si vous vous trouvez, par exemple, au chômage aujourd'hui. Je crois qu'il y a une différence en un temps de chômage et puis se complaire peut-être dans une situation. Et s'y plaire, finalement. Et y rester et apprendre, tout simplement, à vivre au crochet des autres. Que dit Paul aux Thessaloniciens dans son deuxième épître, un petit peu avant ce verset, il dit ceci, « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » J'ai juste souligné le fait que Paul aussi s'est mis à travailler et il est question ici dans la peine. Oh, quand même, un homme de Dieu, un chrétien, un croyant, se retrouver dans la peine, bien oui. Ça existait aussi pour lui. Et puis dans la première épître aux Thessaloniciens, il dit ceci. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ça, c'est un bon témoignage, hein. Mais il dit, nous vous exhortons, et un peu plus loin, verset 11, et à mettre votre honneur, un, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. C'est des conseils pratiques, ça, hein. À travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Et tout le monde dit... Non mais sincèrement, s'il vous plaît. À vivre tranquille, à s'occuper de ses propres affaires, à travailler pour nos mains, pour notre famille, pour nos besoins... Afin que justement nous n'ayons besoin de personne. Je crois que l'enseignement de la parole de Dieu est très très pratique et nous avons besoin parfois de voir ces choses. La Bible nous en parle, à nous de les mettre en pratique. Amen. Je vais un peu plus loin. Deuxième point concernant cette table, eh bien, elle a un aspect aussi bien sûr spirituel. Et vous le savez, cette table, c'est aussi l'image de la Sainte Cène, ou de la communion. Pourquoi prenons-nous la Sainte Cène ou la communion le dimanche matin? Que représente véritablement le pain et le vin? Pas l'hostie. Parce que quand vous prenez les textes bibliques, il n'est pas question d'hostie. Il est question du pain et du vin. Qu'est-ce que cela peut nous communiquer, nous apporter à nous qui sommes croyants? Alors il existe trois valeurs symboliques. Dans un premier temps, de la communion, de la Sainte Cène. La première, la Sainte Cène, la communion, c'est le symbole de notre communion ou de notre identification à la mort de Christ. C'est la première identification que nous avons. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Quand il a partagé le pain et le vin, c'est là le symbole spirituel, c'est là une image qui nous est donnée de la mort de Christ et de sa résurrection. Son corps qui a été brisé, meurtri, son sang qui a coulé. C'est donc cette identification en sa mort. Deuxièmement, je vais assez vite parce qu'on l'avait déjà vu, mais c'est simplement un rappel, La Sainte Seine est aussi le symbole de ce qui est communiqué aux croyants, qui par la foi saisit. De même que le pain et le vin vont nourrir notre corps, eh bien, cette Seine va donner de la vigueur à notre âme, à notre esprit, dans notre relation spirituelle. Donc deuxième point, la Sainte Seine, c'est le symbole de ce qui est communiqué à celui qui croit et qui partage ce pain et ce vin. La Sainte Seine, c'est l'image et le symbole d'un ressourcement spirituel. Nous recevons quelque chose. Nous sommes identifiés à Christ, donc nous recevons la vie, la force, la joie, l'amour, etc., etc. Troisièmement, la Sainte Seine symbolise enfin l'union des frères et des sœurs entre eux, la communion fraternelle de ceux qui ont la même foi, le même partage, la même direction, la même vision, le même appel, ceux qui ont été sauvés par le même Sauveur. C'est là une communion dans la fraternité. Ça, ce sont les symboles. Maintenant, la Sainte Seine représente, bien entendu, des valeurs bien réelles. Nous en avons déjà vu une petite partie. Nous allons approfondir ici. Premièrement, c'est la table du souvenir. Se souvenir de quoi? Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 11, il est dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Le pain, le vin sont tout simplement la matérialisation du souvenir de Christ. C'est un mémorial, un rappel, une commémoration. On se souvient que ce que un jour, il y a 2000 ans, il a accompli à la croix. On se souvient qu'il y a 2000 ans, il a donné sa vie, qu'il est mort à la croix, mais qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Et le pain, le vin, c'est le partage de ceux qui croient en ce sacrifice efficace encore pour nous aujourd'hui, afin que nous soyons lavés et purifiés de tout péché. Deuxièmement, c'est aussi une table d'inspection. Dans 1 Corinthiens 11, 27, il est dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » La deuxième réalité, la deuxième valeur réelle de cette table, c'est une table d'inspection. Nous sommes appelés à nous juger nous-mêmes. Parce que si Dieu nous juge, c'est certainement une autre affaire. Nous sommes appelés à nous juger nous-mêmes, à nous considérer nous-mêmes, à savoir ce qui dans notre vie n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, à comprendre que dans notre existence, il y a peut-être des choses que Dieu n'aime pas. Alors nous avons besoin de confesser nos péchés, de demander pardon et de recevoir sa grâce. Une table du souvenir, une table d'inspection. Une table de communion également. J'en ai parlé il y a un instant. Cette communion fraternelle de ceux qui ont cette même foi, ce même Seigneur, cette même vie spirituelle, ce même contact avec ce Dieu vivant et vrai. Et enfin, cette table, c'est aussi une table d'espérance. L'espérance que Jésus revient bientôt. L'espérance de tout ce qu'il a accompli, de tout ce que sa parole a proclamé, a prophétisé, va s'accomplir et va se mettre en place. Et que bientôt il revient pour nous chercher, pour nous prendre avec lui. En tout cas, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont cette espérance. Et si peut-être au milieu de nous, ce soir, quelqu'un n'avait pas cette espérance de la vie éternelle, eh bien je vous demande simplement de vous approcher de Jésus et de saisir cette espérance. Parce que Dieu veut vous la communiquer et vous la donner, cette espérance éternelle. Nous sommes appelés à vivre pleinement cette espérance. La Bible dit que Dieu a donné son Fils Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Et obtenir la vie éternelle, c'est pas « je pense que je suis sauvé ». Obtenir la vie éternelle, c'est dire « je suis convaincu, je suis certain, je suis sûr d'être sauvé ». Non pas parce que je suis un être extraordinaire, mais tout simplement parce que Dieu, moi qui suis un pécheur ou une pécheresse, Dieu m'a fait grâce. Dieu a pardonné mon péché. Il a lavé ma vie et il m'a engagé avec lui dans une vie nouvelle pour l'éternité. Alléluia. Une table d'espérance. Et cette espérance, vous pouvez la saisir ce soir. elle est pour vous. Et si vous n'avez pas vraiment cette espérance, eh bien demandez-la à Dieu, qu'il vous donne cette espérance de la vie éternelle. Et peut-être alors il vous demandera peut-être de confesser certains péchés, certaines choses dans votre vie qui finalement font obstacle. Il vous demandera de vous approcher simplement et entièrement de lui pour saisir et recevoir cette vie éternelle, cette miséricorde et cette entrée dans son royaume pour l'éternité. Amen. Une table du souvenir, une table d'inspection, une table également de communion et une table d'espérance. Tout cet ensemble, qu'est-ce que cela produit? C'est ensemble que Élisée pouvait également, sur le plan spirituel, mettre en place et qu'il vivait de toute façon dans ce contact avec Dieu. Il avait tout cela qui était rassemblé pour nous. Cet ensemble-là fait de nous des hommes et des femmes victorieux et victorieuses. Je la répète, hein. Cet ensemble spirituel, si vous l'acceptez dans votre vie, va faire de vous un homme victorieux ou une femme victorieuse. C'est une réalité. C'est pour ça que David va dire dans le psaume 23, verset 5, il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Comprenons pourquoi David, déjà, il prophétise de cette manière-là. Et il prophétise sur les temps que nous vivons aujourd'hui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il savait qu'une table allait être dressée, que quelque chose allait se passer, qu'une œuvre allait s'accomplir et que Satan serait vaincu. Il savait. Nous devons rappeler à l'ennemi, et vous devez rappeler à l'ennemi de votre âme, lorsque vous êtes oppressé, lorsque vous êtes angoissé, lorsque vous avez peur, vous devez rappeler à l'ennemi, lorsque la tourmente passe dans votre vie, lorsque la souffrance est là, lorsque l'épreuve semble trop dure, lorsque la difficulté est devant vous et semble ressembler comme à une grande montagne, vous devez rappeler à l'ennemi de votre âme qu'une table a été dressée entre lui et vous et que de toute manière, Jésus est vainqueur. Vous devez proclamer cela. C'est pas une pensée positive. C'est proclamer les vérités de la parole de Dieu. Si vous êtes et si vous marchez dans la vérité selon Dieu et que l'ennemi vient vous agresser, vous perturber et il vient vous dire « Mais non, tu n'as pas besoin de cette foi » ou « Ta foi, regarde comme elle est vaine, elle ne sert à rien », tu dois lui rappeler qu'une table a été dressée entre lui et toi et que Christ en est sorti vainqueur. Parce que sur cette table, il y a tous les éléments de la bénédiction de Dieu. Il y a tout ce dont nous avons besoin pour que nous soyons vainqueurs. Alléluia. Avec cette table, il y a un siège. Et pour ce siège, il y a aussi deux pensées qui se dégagent. Il y a la première pensée qui seront, je dirais, les différentes positions que nous avons devant le Seigneur. Et la deuxième pensée, c'est les réalités de la foi chrétienne pour nous, aujourd'hui. Devant Dieu, nous le savons, nous pouvons être assis, partir, debout, à genoux, prosternés, face contre terre. Je crois que le plus important, c'est de savoir dans quelle position se trouve notre cœur. Dans quelle situation notre cœur se trouve-t-il? Quand nous sommes assis, notre cœur est-il assis? Quand nous sommes debout, notre cœur est-il debout pour élever ou célébrer le Seigneur? Quand nos mains sont élevées, est-ce que notre cœur est élevé de la même manière? Quand nous glorifions le Seigneur et quand nous nous prosternons devant sa face, peut-être nous sommes là prosternés devant lui, est-ce que notre cœur est réellement prosterné? Quand nous sommes à genoux en prière, en intercession, est-ce que notre cœur est véritablement aussi à genoux et en intercession? On peut avoir plusieurs positions devant Dieu. Je crois qu'il est bon d'avoir plusieurs positions devant Dieu. On a malheureusement trop chassé la liberté au milieu de nous. Et alors il faut rentrer dans un stéréotype. Il faut faire comme les autres. Parce qu'on fait toujours comme ça maintenant. Parce qu'on ne veut pas être différent. Parce qu'on a honte. Parce qu'on est timide. Et je bénis Dieu pour cette église d'Andrézieux et pour la liberté qu'il y a. Quand on veut se lever pour louer, quand on veut bouger pour célébrer le Seigneur, eh bien on peut le faire. Et quand on veut se mettre à genoux et quand on veut se prosterner devant le Seigneur, eh bien on peut le faire également. Parce que ça, c'est très important. Mais notre cœur est important. La position de notre cœur, mais notre position aussi de notre corps est important également. Nous devons refléter ce que nous vivons, sinon tu triches. Tu dois refléter pleinement ce qu'il y a intérieurement. Tu dois exprimer au dehors ce que tu vis au dedans. Et ne pas tout garder pour toi. Mais tu as le droit de t'exprimer devant ton Seigneur et devant ton Sauveur. Mais ton cœur doit suivre ton corps. Et ton corps doit suivre ton cœur. Je me souviens de cette petite fille qui avait fait une bêtise. Eh bien, son papa lui a dit, tu te mets à genoux maintenant devant moi et tu me demandes pardon. Et la petite fille, elle ne voulait pas se mettre à genoux. Et il a insisté, il a dit, tu te mets à genoux maintenant, tu me demandes pardon. Et de nouveau, la fille a dit non. Et ce, à plusieurs reprises. Mais devant l'insistance du papa, et puis également la menace de la fessée, alors elle a dit, d'accord, je me mets à genoux, mais mon cœur, il reste debout. Je crois que parfois on peut avoir cette attitude aussi. On peut se mettre à genoux, mais le cœur reste debout. Et parfois notre cœur est à genoux, mais nous, nous restons assis sur notre chaise. Je trouve que c'est dommage également, dans les deux sens. Parce que l'un et l'autre est bon à vivre. Et Dieu veut que nous soyons vrais. Il ne veut pas que nous trichions. On n'est pas là pour faire du cinéma, et on n'est pas là pour faire du spectacle. Et moi, ça ne m'intéresse pas de faire ni du cinéma, ni du spectacle. C'est vrai, ça gagne plus. Mais j'ai choisi ça et c'est comme ça. Par contre, ce qu'il désire, c'est qu'on soit vrai. Et Dieu veut que nous soyons vrais. Et vrais dans nos attitudes, vrais dans nos actions, vrais dans nos gestes, vrais dans nos paroles, vrais dans notre action. Que nous soyons vrais. Et que nous puissions apprendre à nous respecter les uns les autres. Et s'il y a un frère, une sœur qui a ce désir-là de se mettre à genoux et de bénir le Seigneur de cette manière-là ou de prier de cette manière-là, nous devons le respecter ou la respecter. Et peut-être que tu devrais apprendre aussi parfois à faire pareil. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur. Encore une fois, pas pour faire pareil dans l'idée de copier, mais ça fait du bien de se lâcher devant Dieu. Ça fait du bien de s'ouvrir. Ça fait du bien d'être libre devant le Seigneur et de laisser Dieu nous amener pleinement dans sa présence. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne une habitude, mais une tradition. Il nous faut veiller les uns les autres pour que nous restions dans cette liberté. Et ça, c'est très important. La Bible nous dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est l'attitude que Dieu voudrait de chacun d'entre nous. Ainsi parle le Très-Haut, j'habite les lieux élevés dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Sous-entendu, avec l'autre, il n'y est pas forcément. Afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits. Voyez, il y a une vérité là, et il y a un secret. Quand on est dans une situation difficile, et qu'on cherche finalement à être secouru, on cherche à retrouver la vie, on cherche à retrouver une abondance, on cherche à retrouver comme cet esprit qui viendrait nous vivifier. Le secret, il est là. Il faut que ton cœur soit humilié, il faut que ton cœur soit contrit, il faut que tu viennes devant Dieu et que tu cèdes devant lui. Parce que tant que tu lui résistes, Dieu ne peut pas agir dans ton cœur, il ne peut pas agir dans ta vie. Tu as besoin de céder, tu as besoin de t'arrêter, tu as besoin à un moment donné de dire « Stop ! J'arrête, je ne veux plus faire ma volonté, je veux apprendre toujours maintenant à faire ta volonté. Je ne veux plus toujours me défaire par mes propres moyens et me sortir de ces situations par mes propres forces, mais je veux apprendre à dépendre à 100% de toi. Je veux apprendre à faire en sorte que maintenant, je vais me reposer sur toi. » Et ça, c'est vrai que ça nous met un bon coup à l'orgueil et à notre fierté, à notre vanité, à notre position. Parce que nous, on aime bien être sur un piédestal. Mais le Seigneur nous dit, je t'élèverai encore davantage si tu t'humilies véritablement aussi davantage. Si ton cœur reste humble et simple, alors moi, je vais t'élever, dit le Seigneur. Et je crois que nous avons besoin d'apprendre aussi cela. Il y a un secret dans ces textes. Vous voulez grandir avec Dieu, vous voulez vous laisser utiliser par lui, mettez en place ces versets dans votre vie. Laissez Dieu vous apprendre ça. Laissez-le faire. Et vous verrez de quelle manière vous allez grandir spirituellement. Vous allez voir de quelle façon Dieu va vous amener loin avec lui et qu'il va vous ouvrir les portes, que des choses vont se passer dans votre vie spirituelle et qu'il va y avoir comme une ouverture extraordinaire. Ça représente les différentes positions, assis, debout, couché, etc. Et puis, le siège symbolise également notre position spirituelle. Vous savez comment on est déjà dans les cieux ? Il y en a disant les cieux, on va travailler. Non, le Seigneur, il nous dit que déjà nous sommes assis. Nous, qui étions morts par nos offenses, nos péchés, il, Jésus-Christ, nous a ressuscités ensemble. Nous avons fait la même expérience. Et il nous a... Vous avez vu le temps là déjà ? C'est pas il nous fera asseoir. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes, par la foi et par l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Nous sommes déjà dans la gloire. Nous sommes déjà victorieux. Nous sommes déjà prêts à juger les anges avec les apôtres qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Nous sommes déjà là. Assis dans la gloire céleste, dans ces lieux et cette place que Dieu a prévue et préparée pour chacun d'entre nous. Nous étions morts par nos offenses, c'est vrai. Nous ne valions pas grand-chose. Mais il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans ces lieux célestes, afin de montrer sa grâce par sa bonté envers nous. Je vais terminer. Bientôt. Pour nous, chrétiens, aujourd'hui, cela a aussi, bien évidemment, une explication. Le diable peut bientôt presser. Et il ne se gêne pas pour ça. S'il y en a un qui n'est pas oppressé, qu'il lève la main et qu'il me dise comment il fait. Parce que l'oppression, c'est quelque chose qui est là, la tentation, c'est constant, parfois ça s'arrête un temps, et puis ça revient. Pourquoi ? Parce que l'ennemi ne veut pas nous lâcher. Il cherche à nous décourager, il cherche à nous amoindrir. Et là encore, tu dois apprendre à rappeler à l'ennemi de ton âme que quand il cherche à t'oppresser, quand il cherche à te faire perdre la foi, quand il cherche à te décourager, quand il cherche à t'affaiblir, quand il cherche à te culpabiliser, quand il cherche en te mentant et en te disant toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la parole, tu dois proclamer devant l'ennemi de ton âme que déjà tu es assis dans la gloire, dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ. Quand tu lui proclames ces vérités bibliques, il y a un moment donné où l'ennemi ne peut plus t'atteindre. Parce qu'il sait que non simplement tu le proclames, mais tu en es totalement convaincu. Tu deviens convaincu parce que c'est la parole de Dieu et c'est une parole que tu vis. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu es assis dans la victoire. Si tu es dans la victoire, c'est parce que tu es dans le combat. Il y en a, ils pensent qu'ils sont toujours dans la victoire, mais qu'il n'y a plus de combat. Si tu es dans la victoire, c'est parce que justement il y a des combats. Tu es dans la victoire parce qu'il y a des luttes. Tu es dans la victoire parce qu'il y a des moments difficiles et que tu remportes la victoire. Mais tu es assis déjà dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Cette victoire, elle est là. Et le diable persévère. Depuis la création, à tourmenter. Depuis la création, depuis le temps où il a été jeté hors du royaume de Dieu, qu'il a été propulsé sur la terre, il a cherché toujours à détruire l'œuvre que Dieu voulait accomplir. Quand nous regardons l'Ancien Testament, nous comprenons d'une manière simple qu'il a toujours cherché à détruire. Et quand nous regardons d'une manière tout à fait littérale l'Ancien Testament, nous disions « Mais quelle boucherie ! Ils sont toujours tous en train de se tuer et de se couper la tête et il y a du sang partout et on tue tout le monde, les hommes, les femmes, les animaux, etc. etc. » Et bien sûr, on se dit « Mais c'est incroyable, quel Dieu sanguinaire quand même !» Et Dieu n'est pas sanguinaire. C'est Satan qui l'est. Dieu n'a jamais voulu tuer ses hommes et ses femmes. Mais Satan a toujours cherché, en possédant ses hommes et ses femmes, à détruire l'œuvre que Dieu voulait mettre en place. Quelle est la première chose qu'il a voulu faire? Il a voulu faire mourir Adam. Dieu vient de créer l'homme, la femme. Et il veut faire mourir Adam. Il pense que le péché va l'amener à la mort. C'est vrai, ça va l'amener à la mort, mais à la mort spirituelle. La vie va continuer. Et puis, quelque temps plus tard, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël est continuellement en guerre? Pourquoi, depuis des millénaires, il y a tant de haine contre ce peuple? Tout simplement, pour la seule et unique raison, que Satan sait qu'il y a un rejeton de la tribu d'Israël qui doit sortir, c'est le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, et qui va devenir le Sauveur du monde. Si donc Satan pouvait arriver à détruire Israël, alors il détruirait la venue du Fils de Dieu. Et il a failli réussir. Parce que sur les 12 tribus, combien il en reste? David, il sort de laquelle? La tribu de Juda. La plus petite. La plus infime. Celle qui n'avait plus aucune importance. La seule qui restait. Les autres sont complètement décimés. La seule qui a été préservée. Le diable a failli y réussir. Mais Dieu n'a pas permis qu'il aille jusqu'au bout. Et de David, même à travers ce qui s'est passé, Bathsheba, etc., parce qu'il est dans la généalogie, il y a là une grande victoire. Christ prend naissance et son ministère s'accomplit. Mais avant cela, pensez-vous que le diable aurait dit, c'est fini, j'ai perdu la partie? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe dans les premières pages du Nouveau Testament sous Hérode? Qu'est-ce qui arrive? La Bible nous dit qu'il va faire mourir qui? Tous les enfants mâles. Pourquoi? Qui sont-ils? Et qui a-t-il parmi les enfants mâles? Il y a Jésus-Christ. Et lorsque Jésus va grandir un temps et que il va démarrer son ministère, qu'est-ce qui se passe? Satan intervient. Et qu'est-ce qu'il fait avec Christ? Il cherche à le tenter pour essayer de le perdre. À 3 reprises. Encore de nouveau, il active et il essaye de trouver quelque chose. Et puis, il va attendre, la Bible nous dit, le moment propice. Et ce moment propice, c'est peut-être ce moment où il est là sur la croix. Et que sur la croix, finalement, certains sont là en train de l'haranguer en lui disant, mais si t'es le Fils de Dieu, fais-nous voir que t'es le Fils de Dieu. Descends voir un peu. Montre-nous que tu sais descendre. Montre-nous que tu as ta puissance. Et peut-être que dans cette situation, c'était certainement un instant de tentation immense. Puisque la Bible nous dit qu'à l'instant même, des légions d'anges pouvaient intervenir et ôter le Fils de Dieu de cette croix de calvaire sur laquelle il était cloué. Mais encore là, Christ va vaincre. Il sera vainqueur. Dans toutes ses tentations et dans toutes ses actions, Satan a échoué. Aujourd'hui, il cherche encore à persécuter des hommes et des femmes, des croyants. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de chercher à nous faire perdre courage, à diminuer notre foi. J'aimerais vous dire, chers amis, et frères et sœurs, que dans l'épreuve, dans les fardeaux, dans la maladie, dites simplement, quand vous êtes dans cette situation, Satan, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes déjà avec lui. Donc toutes tes attaques, toutes tes tentatives vont demeurer vaines. C'est une parole de foi. C'est une parole de victoire. Jésus va dire à ses disciples, je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table, voyez là il y a encore une table, dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes. Alléluia. La victoire de la foi chrétienne, c'est une réalité. C'est pas une utopie, c'est pas une idée. Ce n'est pas réservé qu'à quelques-uns. C'est une réalité pour chacun d'entre nous. Alors je termine maintenant et je conclue en disant simplement que tout cela, la Bible nous dit, faisons-lui tout cela à Élisée et qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Il avait cette liberté. Toutes ces choses maintenant sont à sa disposition, à la disposition d'Élisée. Et je crois qu'à
à nous également. Vivre ce souvenir de ce que Jésus a accompli. Ce jugement personnel à cette table, afin de ne pas être jugés nous-mêmes. Cette communion et cette espérance de savoir que Jésus revient bientôt. Cette position de cœur également devant Dieu, comme cette position de corps et la réalité d'être en Christ vainqueur dans les lieux célestes. Que cette chambre soit un lieu pour chacun d'entre vous où vous allez pouvoir vous rendre et que vous allez pouvoir vraiment saisir et prendre toutes les promesses de Dieu qui sont à votre disposition. Alléluia. Dimanche prochain, nous nous arrêterons et nous terminerons cette étude en partie sur ce chandelier. Plus exactement.